CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Bonjour, bonjour à tous, merci d'être fidèles au MAG du pays Midi-Quercy. Le festival La vie rurale, c'est pas de la science-fiction, a été mené par 5 territoires de Midi-Pyrénées. Le pays Porte de Gascogne et le pays d'Auche dans le Gers, le pays Midi-Quercy, ici le pays Bourian et le parc naturel régional des Côtes du Quercy dans le Lot. Ils se sont associés dans cette démarche et ont proposé un regard croisé sur le monde rural de demain et ont invité dans un tourbillon de spectacles, conférences, projections, cinéma, débats, expositions dont nous avons beaucoup parlé ici. La notion de ruralité était difficile à définir, marquée par l'héritage de représentations anciennes opposant le rural à l'urbain. Mais la vie rurale, c'est pas de la science-fiction, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de la prospective. Samedi 20 avril, des ateliers élaborés dans les divers territoires ont permis d'entendre des scénarios de développement à l'horizon 2040, chacun des pays ayant élaboré un diagnostic et un scénario noir, défini par les évolutions actuelles, en gros ce dont nous ne voulons pas, et un scénario, je dirais pas idyllique, mais un scénario se transformant en termes d'objectifs, les points forts que nous voulons mettre en place. Au programme de cette journée, restitution des scénarios des 4 territoires, puis en début d'après-midi, Claude Dupuis du Conseil économique, social et environnemental régional de Midi-Pyrénées se lançait dans l'exercice de prospective du Césaire, à la découverte d'autres chemins vers 2040. Vous entendrez donc Claude Dupuis du Césaire dans une première étape. Nous avons conservé les 2 scénarios, le scénario dont nous ne voulons pas, présenté par Jeanne Giatti-Chardon, chargé de la culture au syndicat mixte du Pays Midi-Quercy, puis le directeur du syndicat mixte du Pays Midi-Quercy, Philippe Darbois, présentera le scénario que nous voulons pour notre territoire. Enfin, Laurence Barthes, géographe, maître de conférence à l'Université de Toulouse-Le Mirail, récapitule ce qu'est la prospective et présentera les hypothèses des travaux de prospective de la DADAR. Claude Dupuis du Césaire.
Le scénario le plus important et le point de départ de tous les autres, c'est le scénario qui part des politiques actuelles. C'est la prise en compte de toutes les politiques qui sont menées actuellement et voir quel développement elles vont avoir d'ici 2040. Les points positifs et les négatifs. Donc on va voir peut-être qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas nous plaire en 2040. Parce qu'on a pris en compte les problèmes qui n'ont pas été résolus. Et il y en a un certain nombre. À partir de ce scénario tendanciel, on crée le scénario de régression, scénario noir, où il part du fait que Midi-Pyrénées connaît un problème, un effondrement des points forts de la région, l'aéronautique et le spatial par exemple, la montée en puissance de certains pays comme la Chine et l'Inde, qui vont certainement devenir des concurrents sérieux au niveau de l'aéronautique. Donc ce scénario régression voit s'effondrer tout un tas de domaines sur lesquels nous sommes innovants, et beaucoup de choses régressent effectivement, et pas grand-chose ne marche. Alors certaines approuvent ce scénario régression, parce qu'ils n'aiment pas trop ce système d'aujourd'hui, une croissance continue avec un certain nombre d'inconvénients que j'ai entendus ce matin. Et qui se disent, sur les ruines de cette économie, on va construire notre monde. Hein, bon, pourquoi pas ? Je veux dire effectivement qu'on ne prend pas position dans ces scénarios. Il y a un scénario beaucoup plus violent, c'est le scénario productivité. Ce scénario, il est basé sur une croissance tout azimut avec une dérégulation des systèmes économiques. On fait ce qu'on veut quand on veut. On s'affranchit de toutes les règles du travail, de l'environnement, etc. Et il y a une croissance désordonnée, mais qui est une croissance importante, avec des inconvénients, effectivement, aussi. Il ne faut pas croire que, dans ce scénario productivité, on va avoir le plein emploi, loin de là. Puisque, là aussi, si on n'est pas performant, on reste sur le bord du chemin. Et on fait venir des gens venant de partout, qui prennent en compte les emplois, y compris des emplois peu rémunérés, comme on le voit effectivement aussi en Allemagne, qui base son économie sur des emplois très mal rémunérés. Il y a des emplois en Allemagne à 400, 500 euros, 600 euros. Hein. Et l'agriculture, il n'y a pas de SMIC, etc. Donc on peut imaginer que ce scénario croissance ressemblerait un petit peu à ce qui se passe actuellement en Allemagne. Et puis, comme veut être un certain nombre un peu positif, on a réuni le scénario productivité et le scénario environnemental pour en faire la synthèse innovante. On part du principe qu'on est gouverné par des personnes qui ont été élues pour une politique fortement environnementale. Et on prend ce qu'ils mettent en avant pour voir comment ça se développe. On voit les destructions d'un certain nombre d'emplois, d'industries qui ne sont plus correctement représentatives de l'environnement et qui sont obligées de fermer parce qu'ils ont de telles contraintes qu'ils ne sont plus compétitifs dans leur production. Par contre, on voit apparaître de nouveaux emplois basés sur les nouvelles technologies, les nouvelles énergies, etc. On change fondamentalement les règles de l'économie. Et on ne peut pas dire qu'il soit négatif, ce scénario. Et donc, le scénario de synthèse reprend la croissance du scénario productivité, mais avec le respect d'un certain nombre de règles environnementales. Et on voit ce que ça donne. C'est beaucoup plus doux, évidemment, comme évolution que ce que nous pouvons connaître, effectivement, aujourd'hui. L'acte 3 de décentralisation va fondamentalement changer les règles des collectivités territoriales. On va commencer par les règles nouvelles des métropolisations. Ensuite, on va faire le conseil régional, les conseils régionaux, je veux dire, et ensuite les départements. Ça va s'étaler sur à peu près un an. Donc, ce que nous disons ici, certainement, ça devra être revu, hein, puisqu'on prendra en compte, évidemment, les nouvelles règles qui vont réguler ces institutions. On a mis en place un SRAT, schéma régional d'aménagement et développement durable territorial. La région Midi-Pyrénées est aujourd'hui en train de réviser ce SRAT avec un élément prospectif. Mais on considère que ce SRAT, dans ce scénario, est devenu prescriptif. C'est-à-dire que c'est un schéma qui s'impose à tous. C'est étonnant ce qui vient de se passer quand même. Tous ces territoires-là se sont excessivement peuplés et continuent d'avoir une progression démographique importante. Et vous le constatez, puisque vous avez souvent parlé des nouveaux arrivants. Et donc c'est un point fort aujourd'hui de vos territoires qui vont gagner de la population et qui vont permettre d'être des partenaires importants par rapport aux autres collectivités qui sont autour de vous. Vous voyez, Toulouse est au milieu et pas simplement tirant ses populations. Voilà, bon.
Alors, Gianne Riatti, Chardon, chef du projet culturel du territoire. Donc moi je fais le scénario du pire, ce que nous ne voulons pas. Il était une fois, en 2040, sur le pays Midi-Quercy, monsieur et madame Sadkercy. Monsieur et madame Sadkercy habitent avec leur fils unique dans une des dernières maisons Phoenix, construites dans les années 90 à Nègrepelisse, certes pas très confortables, mais en phase avec leurs faibles ressources financières. Nègrepelisse est devenue un quartier de Montauban, elle-même banlieue de la métropole toulousaine. Monsieur Sadkercy travaille pour le propriétaire terrien du pays, le dernier propriétaire terrien, également unique pourvoyeur d'emploi dans ce système néo-féodal. Ce dernier propriétaire a racheté l'ensemble des terres disponibles au fur et à mesure des années. Monsieur Sadkercy fait partie de la milice de surveillance contre les squatteurs et de lutte contre le vandalisme et le braconnage alimentaire et énergétique. Donc la famille se nourrit de cultures vivrières produites sur les terrasses de l'Aveyron, les seules terres fertiles et irrigables, dont quelques lopins de terre sont loués par le propriétaire aux dizaines de familles encore résidentes dans le secteur. La majeure partie de la production agricole locale est surtout destinée aux touristes qui viennent en villégiature, Madame Sadkarsi s'approvisionne dans les grandes surfaces de Montauban pour les produits manufacturés made in India. Les enfants vont à l'école dans les cyberbases Quintuple Play, lieu d'accès numérique, qui permettent également de se rencontrer et de conserver un lien social. En effet, il n'y a pas eu d'aménagement numérique du milieu rural en raison du très faible niveau d'investissement public concentré ces dernières années sur les métropoles. Le pays déserté par la population est très peu densifié en services. Les cyberbases regroupent ainsi l'ensemble des services restants. Ces lieux sont situés en bordure d'Aveyron, devenus couloirs de circulation et d'habitat. L'enseignement se fait par des professeurs virtuels jusqu'à la fin du collège. Au lycée, les enfants vont à Montauban pour un apprentissage centré d'une part sur la relance de la biodiversité et d'autre part sur le modèle économique de développement touristique du territoire.
Le scénario positif.
Voilà. Donc, ce que nous voulons. Donc, je précise que c'est une contribution collective, hein, bien sûr, hein, ce scénario. Donc, je suis Philippe Darbois, directeur du syndicat mixte du pays Midi-Quercy. Alors, nous sommes jeudi. Jeudi étant le premier jour de la semaine dans le mode de fonctionnement du pays Midi-Quercy. Monsieur Happy Quercy est un agriculteur. Le rôle de l'agriculteur a bien évolué. Il a une exploitation diversifiée, maraîchage, lin et chanvre pour l'isolation, élevage et noix. Sa production est écoulée en local, en fonctionnant avec une monnaie contributive ou pour les cantines scolaires du territoire. Son travail représente un mi-temps. C'est un choix qui lui permet de s'impliquer dans la vie collective. Le territoire a décidé de limiter le regroupement trop important de terres en mettant en place un droit de préemption, favorisant ainsi l'installation de nouveaux arrivants, principalement dans l'agriculture. La collectivité a souhaité également donner un rôle plus important aux agriculteurs en partant du principe qu'ils étaient des garants d'une qualité du paysage et d'une qualité du cadre de vie, notamment en termes de services diversifiés apportés aux habitants. Un programme a donc été lancé sur la formation continue des agriculteurs, appelé « Utilisateurs de la terre ». Monsieur Happy Quercy consacre donc l'autre moitié de son temps à l'animation bénévole de la télévision locale Slow Télé, qui irrigue l'ensemble du territoire. On y retrouve des émissions de philosophie éducative pour les maternelles et une télé-réalité des nouveaux arrivants pour apprendre à se connaître. Il y a un ensemble de productions contributives dans différents lieux du territoire qui contribuent donc au programme de cette Slow Télé. Madame Happy Quercy est médiatrice de bonheur. Ce travail assez flou est apparu suite à la réflexion sur la qualité relationnelle du territoire, un des axes de développement. Son travail est en partie médical. Pour faire face à la désertification médicale, il y a un choix de former plus massivement des personnes aux premiers soins sur l'accompagnement des rythmes de vie dans une logique médicale de prévention. Le territoire a ainsi été précurseur dans la mise en œuvre d'un agenda 21 de la santé qui repense la santé sous une forme un peu différente, non pas envisager l'être malade, mais comment entretenir une qualité de vie sur le territoire. Cette réflexion a donc donné lieu au programme vers une qualité relationnelle du territoire. La fille de M. et Mme Happy Quercy est impatiente car elle participe à une émission d'information internationale. Le choix a en effet été fait de délocaliser le collège à l'étranger, favorisant la curiosité, la rencontre avec l'autre et l'ouverture au monde. Elle se trouve en Thaïlande et tous les étudiants partent là-bas à l'internat. Elle est partie pour un an. Le fils est en compagnonnage. Il travaille dans la construction et les matériaux d'isolation pour revaloriser énergétiquement le territoire et il espère pouvoir bientôt intégrer une formation sur le développement des énergies nouvelles sur le territoire. Le mercredi soir, ils ont rendez-vous dans le conseil, lieu où les habitants échangent et participent aux questions et projets liés à l'aménagement du territoire.
CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Et voici enfin Laurence Barthes, maître de conférence à l'université de Toulouse-Mireille, qui présente l'exercice de prospective de la DATAR, d'autres chemins vers 2040.
La France 2010, on ne peut plus la considérer partagée entre d'un côté des espaces ruraux et de l'autre côté des espaces urbains. Donc la France, elle a été découpée en systèmes spatiaux qui traduisaient finalement des formes structurantes d'occupation des territoires. Alors moi, j'ai travaillé sur le groupe des espaces dits de faible densité. Du coup, on ne parle pas de rural, on parle d'espaces qui sont marqués par la faible densité en matière d'occupation de l'espace, en matière aussi de structuration des activités, de mobilité. Ensuite, il y a bien sûr 6 autres systèmes spatiaux qui abordent différentes réalités urbaines, la très grande métropole, les villes moyennes, qui abordent aussi les espaces pour lesquels le tourisme et l'économie résidentielle jouent un rôle important, par exemple, mais aussi des systèmes qui abordent des territoires marqués encore par l'activité industrielle. Pourquoi la DATAR a lancé cet exercice de prospective ? Bon, fin 2009, mais je dirais qu'on peut le dire aujourd'hui encore, parce que beaucoup de territoires renouvellent des exercices ou impulsent des exercices de prospective, c'est que souvent, la prospective, elle apparaît à des moments où on doute, où on s'interroge, où on est dans des moments d'incertitude. Alors bon, là, à la fois simple, mais aussi très compliqué pour chacun d'eux. Voilà, en deçà de 30 habitants au kilomètre carré, on était vraiment dans des espaces de faible densité où les paysages ouverts étaient structurants dans l'occupation des territoires et de la même manière la présence de certaines activités. Les espaces de faible densité, ce sont des espaces stratégiques aujourd'hui en France. Dans un monde, vous l'avez dit tout à l'heure, aux ressources finies, dans un monde très plein, la faible densité, c'est une ressource stratégique. Et ça l'est d'autant plus que du coup, ça génère de la convoitise de la part d'usagers, de groupes économiques, etc. Ce qui marque ces espaces de faible densité, c'est l'idée du confort spatial. Et moi, je trouve aussi cette idée très forte. C'est un rapport à la nature privilégié, c'est la présence de ressources qu'aujourd'hui, on peut considérer comme banales, mais le silence, le ciel étoilé, ça a été évoqué aujourd'hui, quand on pense qu'aujourd'hui on crée des réserves de ciel étoilé, ça veut dire que c'est devenu quelque chose finalement de précieux. C'est aussi les ressources stratégiques vitales, la terre, le sol, la biodiversité, l'eau. Et dans notre travail, nous, on a beaucoup insisté sur l'inversion de valeur, c'est de dire la faible densité, c'est pas l'espace reculé, isolé, marginalisé, c'est un espace stratégique. Et peut-être depuis 40 ans, on lutte contre la désertification, sans doute que demain, dans les 30 ans qui viennent, l'enjeu, ce sera de protéger les espaces de faible densité, protéger des spéculations, protéger de la banalisation, de l'étalement urbain, etc. On dit souvent la faible densité, c'est les espaces de la pauvreté, etc. Oui, on sait qu'il y a des risques de précarisation dans certains espaces de faible densité, mais ce n'est pas le cas partout. Et donc là, on voit bien que dans les espaces de faible densité, il y a un potentiel de richesse. Je disais l'épargne locale. Aujourd'hui, c'est un vivier pour le développement territorial, mais finalement, comment cette épargne locale, elle est finalement consommée sur le territoire ? Je pense qu'il y a là aussi un sujet de débat. Pour construire les scénarios, il faut se poser 4 questions. C'est quelle sera la société de la faible densité à l'horizon 2040 ? C'est-à-dire qui habitera dans ces espaces en 2040 ? La deuxième question, très simple, c'est aussi de se dire dans ces territoires, qu'est-ce qu'on y fera en 2040 ? Quelle sera la base productive ? Quels seront les systèmes d'activité ? La troisième question, alors celle-là, moi, je la trouve importante et je trouve que ce matin, dans tous vos scénarios, quelqu'un l'a dit, ça n'a pas été oublié, parce qu'on dit souvent le développement territorial, ça finit par faire du bocal, c'est-à-dire on pense à son territoire, là, Midi-Quercy, Pays Bourian, pensons, c'est de se dire, bon, un territoire aujourd'hui et demain sans doute encore, il sera dans des systèmes d'échange et de flux, voilà. Et la question, c'est comment il se positionnera dans ces systèmes d'échange et de flux ? En situation dominée, on le disait, en situation au contraire d'espace convoité. Donc finalement, quelle sera sa fonction dans un système global, son attractivité dans un système global ? Ça vaut sur le plan politique, ça vaut sur le plan économique, social, de mode de vie, etc. Et puis la quatrième question qu'on s'est posée, bon alors ça évidemment c'est une question importante, mais en même temps moi j'ai toujours à l'esprit de se dire, bon, on ne pense pas les politiques de demain, mais en tout cas on y réfléchit, c'est finalement comment ces espaces seront gouvernés, comment s'y prendra ou ne s'y prendront plus d'ailleurs des décisions, comment on les gérera, voilà. Et la grande question c'est de se dire finalement est-ce que ces territoires ils seront pilotés de l'intérieur ou finalement pilotés à distance. Voilà les 4 questions qui ont servi de base à l'exercice de prospective. Par rapport à ces 4 questions, on a pris en compte toute une série, je dirais, de facteurs de changement, mais plutôt exprimés en termes de tension. Alors bien sûr, la question alimentaire, la question énergétique, l'organisation des marchés. Alors là-dessus, bien sûr, à faire de la prospective. Est-ce que demain, dans 30 ans, il y aura une organisation régionale, nationale, internationale des marchés? La question de l'action publique, le dynamisme démographique, le rayonnement de l'urbanité. Ça aussi, c'est un facteur de changement. Parce que quand même, on est toujours dans des cycles et on se dit que la ruralité, c'est quelque chose qui marque nos cycles de vie actuels. Est-ce qu'il en sera pas de même dans 30 ans? Est-ce que nos enfants ou nos petits-enfants, j'en sais rien, seront attirés par le rural? Est-ce que le fait de vivre en ville ou de vivre à la campagne, ça aura les mêmes valeurs qu'aujourd'hui? Sans doute que non. Et puis ensuite, une dernière question, un facteur de changement sur la question de la cohésion sociale. Et là, on a eu un grand débat sur une controverse entre le rapport entre individu et collectif. Comment se construira l'intérêt général de demain? J'avoue que là, on a plus des questions à se poser que des réponses à apporter. Mais bon. Alors, je termine par les scénarii. Les deux premiers qui font l'hypothèse, finalement, que les espaces de faible densité seront de moins en moins peuplés dans les 30 ans qui viennent, mais pour des raisons très différentes. Ensuite, il y a un troisième scénario qui fait le pari que la faible densité dans 30 ans, ça n'existera plus. C'est-à-dire que croissance démographique, étalement, mobilité renouvelée, enfin, par d'autres systèmes, etc., on vivra où on voudra. Et donc, du coup, la faible densité, elle sera grignotée, absorbée. Et puis, il y a deux scénarios, peut-être plus volontaristes, on va dire, qui parient finalement sur un renouvellement des bases de ressources des espaces de faible densité et sur, finalement, un maintien, voire un renouvellement, voire une augmentation des populations qui vivent, mais qui, quelque part, exercent des activités différenciées dans ces espaces de faible densité. Troisième scénario, alors c'est une hypothèse totalement différente. Si la population continue à augmenter, si finalement les conditions de déplacement restent facilitées à travers des innovations technologiques, par exemple, si le TGV se généralise partout en France et que les connexions au TGV depuis les grandes gares sont assumées par des investissements publics ou privés, même quand on est au cœur du Massif central, on n'est jamais très loin quand même de villes petites, moyennes ou grandes. Et donc, si les conditions de transport sont facilitées, on va pouvoir s'installer de plus en plus partout. Et donc, finalement, la faible densité, comme nous la connaissons aujourd'hui, serait progressivement absorbée, mitée, à travers l'étalement. Et la région Midi-Pyrénées, je dis souvent, dans une grande partie de son espace, est peut-être potentiellement concernée par ce type de scénario. Et puis les deux derniers scénarios, les scénarios un peu plus volontaristes, je dirais, plus dans la perspective du développement territorial. Alors le premier, on l'a intitulé le canevas territorial des systèmes entreprenants, c'est-à-dire finalement des espaces de faible densité qui, à l'horizon 2040, finalement, ont fait un regard, je dirais, un retour sur leur base productive et ont bâti finalement des capacités à renouveler leur panier de ressources en matière agricole, en matière énergétique, en matière artisanale, mais aussi peut-être en matière de nouveaux services, à la fois pour ces espaces, mais aussi pour la société urbaine. Donc les enjeux, c'est d'entretenir le dynamisme démographique et social, c'est de pallier les besoins en ingénierie de développement, c'est d'aider finalement à la conversion du secteur agricole par rapport à ce que là, il y a vraiment l'idée qu'on va vers des nouvelles formes de valorisation des produits agricoles et la question de l'accompagnement de l'innovation auprès des acteurs locaux. Le dernier, qui est intitulé « L'avant-scène des villes », fait peut-être écho à ce qu'on a dit ce matin, mais le précédent aussi, parce que dans ces deux scénarios, il y a bien l'idée que les espaces de faible densité deviennent, je dirais, créateurs de nouvelles valeurs ajoutées, mais forcément dans un lien construit avec les territoires urbains. Alors, l'avant-scène des villes, finalement, c'est un scénario qui parie sur une très forte qualification des ressources de la faible densité, ressources patrimoniales, ressources environnementales, mais aussi des ressources, on va dire, par exemple, agricoles, mais aussi les fonctions de services. Mais pour le coup, ces activités-là, elles sont véritablement bâties dans une perspective, finalement, de services rendus aux espaces métropolitains. Alors, les enjeux posés par ce scénario, c'est l'enjeu de construire un pouvoir public fort, pour finalement avoir la capacité à maîtriser la plus-value et les ressources générées par finalement l'exploitation des qualités des espaces de faible densité. Donc ça suppose de repenser les échelles et les formes de gouvernance. Deuxième enjeu, c'est l'enjeu de la connexion de l'articulation entre les attentes des populations qui vivent dans ces territoires et les besoins urbains. Et puis, qui dit forte qualification des espaces, production de services à haute valeur ajoutée, ça génère forcément de l'exclusion, parce que ça génère des coûts, des augmentations de coûts du foncier, par exemple. Et donc, c'est comment maintenir finalement un accès ouvert à ces espaces pour ceux qui pourraient y venir s'y installer et pour ceux aussi qui y vivent déjà. Voilà pour les scénarii.
CFM, CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG Pays Midi-Quercy, tous les mercredis de 12h à 12h30 et samedi à 18h.
Merci d'avoir suivi ce MAG du Pays Midi-Quercy que vous pouvez retrouver sur le site cfmradio.fr en cliquant sur émission, le MAG du Pays Midi-Quercy. À la semaine prochaine.